Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 7h, merci de nous rejoindre sur Europe 1.
Aujourd'hui, en réalité, le problème vaccinal est très flou. On se demande vraiment s'il existe d'ailleurs réellement.
Comment accélérer la vaccination en France? Les doses sont-elles là? La logistique est-elle prête? Certains en doutent alors que le gouvernement, accusé de lenteur, veut passer la vitesse supérieure.
Début tout à l'heure du nouveau couvre-feu dans 15 départements de l'Est de la France. Les sorties seront interdites à partir de 18h.
Cela fait près de 36 heures qu'ils sont en train de danser. 2500 fêtards sont réunis à côté de Rennes, fête totalement sauvage et illicite. Les forces de l'ordre sont sur place.
Et puis avant de quitter la Maison-Blanche, Donald Trump essuie un sérieux revers. Le Congrès, acquis à sa cause, a validé le budget de la défense. Le président avait pourtant mis son veto.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Deux chiffres, Marguerite, pour ouvrir ce journal. Et pour illustrer la lenteur de la vaccination en France. En une semaine, l'Allemagne a vacciné 170 000 personnes. La France, moins de 400, la comparaison est brutale.
La lenteur revendiquée au départ pour prendre le temps de convaincre les plus réticents, pour recueillir tous les consentements, ce rythme est aujourd'hui dénoncé dans le pays, y compris par l'Académie de médecine. Face aux critiques, l'exécutif veut accélérer. Emmanuel Macron l'a dit lors de ses vœux jeudi soir. Dès lundi, donc, les soignants de plus de 50 ans pourront eux aussi se faire vacciner. Oui, mais comment? Philippe Frogel du CHU de Lille se pose encore la question.
On va être extrêmement vigilant dans les prochains jours pour d'abord connaître les objectifs, savoir la logistique, combien de vaccins, de doses sont disponibles et comment on va le faire. Parce que aujourd'hui, en réalité, le problème vaccinal est très flou. On se demande vraiment s'il existe d'ailleurs réellement. J'attends de savoir comment on va vacciner les gens comme moi, c'est-à-dire les soignants de plus de 50 ans. Il va falloir qu'on reçoive quelque chose, qu'on nous dise de nous présenter quelque part. Enfin, dans les pays étrangers comme en Allemagne, en Angleterre ou en Israël par exemple, chacun a reçu une invitation à venir, on prend rendez-vous, les choses sont organisées. Et ma très 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 grande inquiétude aujourd'hui, c'est l'incapacité réelle de passer de l'intention à la réalité. Tout est à faire.
Philippe Frogel, professeur au CHU de Lille avec Victor Dolande.
Mais si l'on poursuit les comparaisons européennes, le Royaume-Uni a déjà vacciné 1 million de personnes.
Une campagne de masse pour tenter de ralentir l'épidémie qui est repartie de manière incontrôlée avant Noël. Les transferts de patients ont repris outre-Manche pour décharger les hôpitaux. Les semaines qui viennent seront cruciales. Anaïs Cordoba est à Londres pour Europe 1.
Signe qu'un seuil critique est atteint à Londres, un hôpital de campagne géant a été réactivé et se tient prêt à recevoir des patients. Monté de toutes pièces dans un grand centre de conférence à l'est de la capitale, il peut accueillir jusqu'à 4000 lits. Londres est l'une des régions où le nombre de patients Covid hospitalisés a le plus augmenté durant cette deuxième vague. Dans un mail qui a fuité à la presse, un grand hôpital londonien dit opérer en mode médecine de catastrophe et ne plus être en mesure d'apporter des soins d'urgence de qualité. Mais la pression sur les hôpitaux affecte tout le pays. Le nombre de patients Covid hospitalisés dépasse maintenant celui du pic de la première vague. Cette progression rapide de l'épidémie est due en partie aux nouveaux variants du coronavirus. Une étude de l'Imperial College confirme qu'il est bien plus contagieux, susceptible de faire tripler le nombre de contaminations. Mais un espoir dans la tempête, le vaccin Oxford déployé dès lundi, il est censé accélérer considérablement le rythme de la vaccination. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et en France, près de 20 000 cas ont été détectés dans les dernières 24 heures.
Bilan quotidien encore très haut. La bonne nouvelle, c'est le nombre de patients admis en réanimation. Ce chiffre est chaque jour un peu moins important.
L'autre bonne nouvelle, Marguerite, c'est qu'avec les gestes barrières que nous appliquons depuis le printemps dernier, les autres virus, eh bien, sont presque inexistants.
Oui, et notamment la grippe saisonnière, incontournable de l'hiver, elle semble passer à la trappe cette année. Il y a les gestes barrières, mais pas seulement, selon le secrétaire général d'SOS Médecins, Serge Osmajda.
On pense évidemment que l'application des mesures barrières, faut-il les rappeler, le masque, le lavage des mains et la limitation des contacts sociaux agit sur les autres virus respiratoires et notamment la grippe. Donc c'est une première explication. La deuxième, c'est que les citoyens se sont plus volontiers vaccinés contre la grippe. C'est de l'ordre de 13 millions cette année. C'est un petit peu plus que les années précédentes. Et enfin, troisièmement, on observe qu'il n'y a pas de cohabitation de ces deux virus respiratoires et ça se passe comme si un virus entre guillemets chasser l'autre. Et voilà, le fait qu'il y a le virus du Covid qui est évidemment prépondérant, ça se passe comme si le virus de la grippe ne diffusait pas.
Serge Smadja, secrétaire général d'SOS Médecins, avec Nicolas Feldman.
Il est 7h05, c'est un couvre-feu élargi qui entrera en vigueur ce soir dans 15 départements.
Essentiellement dans l'est du pays, dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Sud. Vous devrez impérativement être chez vous à 18h ce soir et non pas à 20h comme dans le reste de la France. 18h, ça veut dire qu'il faut s'organiser.
Ça ne va pas laisser énormément de temps au loisir. Donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'on sera juste cantonné à travailler et dormir ?
Bon, le 20h c'était encore jouable, mais là 18h c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas évident de se rappeler qu'il faut être rentré pour 18h, c'est tout quoi. C'est une organisation autre.
Je prends positivement, ce qu'il faut c'est juste se dire que s'il faut faire un effort, il faut le faire là. J'aurais même peut-être préféré un confinement dur pendant 10 jours, 15 jours.
On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel.
Ce sera peut-être pas la bonne solution, mais ça en sera au moins une pour que ce virus, on arrive un petit peu à le faire disparaître, en attendant le vaccin, bien sûr.
Quelques habitants de Reims rencontrés hier soir par notre envoyée spéciale Caroline Baudry. Ce couvre-feu élargi, on en parlera dans le journal de 8h avec la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin.
Oui, Josiane Chevalier qui sera notre invitée. Le couvre-feu, eux, visiblement, ils n'en ont pas à faire grand-chose. 2500 fêtards rassemblés à Luronde, au sud de Rennes.
Un grand rassemblement est en cours depuis jeudi soir dans des hangars désaffectés. C'est là que les participants ont fêté le passage en 2021 en dépit du couvre-feu et au mépris de tous les gestes barrières. Ce réveillon sauvage est toujours en cours, malgré la mobilisation des gendarmes aux alentours. Hier soir, le ministre de l'Intérieur a même convoqué une réunion de crise, place Beauvau, Marion Dubreuil.
L'enjeu, c'est d'éviter les affrontements. Cette rave-partie a beau être complètement illégale, occupation de hangars sans autorisation, rassemblement en dehors des horaires du couvre-feu, à l'exception de la propagation de la Covid, il n'y a jusque-là pas de mise en danger immédiate des participants, donc aucune urgence à intervenir. La stratégie adoptée pour le moment est celle d'une sécurisation des abords du site. 150 gendarmes bouclent le périmètre, ils contrôlent tous ceux qui quittent la zone et bloquent ceux qui voudraient rejoindre la rave-partie. Le risque d'une évacuation forcée, c'est de faire monter les tensions, comme le soir du réveillon, avec un véhicule incendié et 3 gendarmes blessés, ou bien encore de provoquer des mouvements de foule dangereux pour les participants. À ce stade, la préfecture d'Ille-et-Vilaine compte sur le départ progressif des teufeurs, mais des gendarmes mobiles ont déjà été appelés en renfort et ils pourraient intervenir à tout moment.
Les explications de Marion Dubreuil.
Ce réveillon de la Saint-Sylvestre aura été marqué par 2 drames. À Strasbourg, un jeune homme est mort en manipulant des feux d'artifice, et à Montbazillac, en Dordogne, un homme a été tué par arme à feu.
Un fusil de chasse que l'un de ses amis avait apporté lors de ce réveillon à Thème. Une enquête a été ouverte, Guillaume Biais.
C'était une soirée déguisée, un réveillon à thème entre anciens camarades de lycée, amateurs de la série télé Peaky Blinders, l'histoire d'une famille de criminels britanniques à Birmingham dans l'entre-deux-guerres. Pour jouer le jeu, les invités étaient venus en costume des années 20. L'un d'eux avait même apporté le fusil de chasse de son père. Mais en début de soirée, pendant que la plupart des convives fumaient à l'extérieur, le jeune homme de 27 ans qui organisait cette soirée chez lui s'est fait tirer dessus dans son garage par son camarade du même âge, qui manipulait le fameux fusil. D'après les premiers éléments de l'enquête, le coup de feu mortel serait accidentel, un tir par inadvertance ou imprudence. Les pompiers n'ont rien pu faire, la victime touchée au thorax a succombé, laissant ses amis sous le choc, particulièrement l'auteur du tir qui a été placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade de recherche de Bergerac, chargé d'éclaircir les circonstances exactes de cette affaire.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1. Pendant ce 31 décembre, sous couvre-feu, les forces de l'ordre ont réalisé plus de 45 000 contrôles et 6 600 PV ont été dressés.
À 7h09, on part aux États-Unis et c'est un revers inédit pour Donald Trump. Certains, Marguerite, évoquent même une humiliation.
Oui, la nuit dernière, le Congrès américain a adopté le budget de la défense, jusque-là rien d'anormal. Sauf que le président Trump avait déposé un veto. Hier, les députés l'ont donc contourné, y compris certains républicains qui commencent à prendre leur distance. Alexis Guillot, vous êtes à New York pour Europe 1.
Oui, et c'est un désaveu pour le président Trump. 81 voix pour, 13 contre. Le Sénat, pourtant contrôlé par les Républicains, a préféré adopter ce budget de la défense qui va notamment permettre d'augmenter le salaire des militaires. Il y a une semaine, Donald Trump avait bloqué le texte en demandant des corrections. Il n'a pas été entendu et sur Twitter, il a qualifié hier soir ce vote des sénateurs de pathétique. Alors pour le président, une telle claque, c'est une première depuis son arrivée au pouvoir il y a 4 ans. Et cet épisode révèle surtout les fissures au sein du Parti républicain. Un fossé qui se creuse entre d'un côté des fidèles de Donald Trump, une base qui continue de rejeter les résultats de la présidentielle, et de l'autre des sénateurs qui sont de plus en plus nombreux à reconnaître la victoire de Joe Biden. Donald Trump, lui, espère toujours garder la main sur son parti, mais dans 3 semaines, il va quitter la Maison Blanche. Et ce qui se joue en ce moment, c'est la bataille pour le contrôle du Parti conservateur.
Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. Les États-Unis qui, sur le front du Covid, ont franchi hier la barre symbolique des 20 millions de contaminations. La lutte contre le réchauffement climatique n'est, semble-t-il, pas une priorité pour tout le monde. Moins de la moitié des États signataires de l'accord de Paris ont transmis leurs nouveaux engagements en matière de climat. La date limite pour le faire, c'était le 31 décembre. Et donc, seuls 70 pays sur 200 ont respecté la consigne.
On passe au foot, Marguerite, et cette équation compliquée pour les clubs français.
C'est le début aujourd'hui du mercato d'hiver, ce marché des transferts ouvert pendant un mois. L'occasion pour les clubs de réajuster leurs effectifs. Cette année, ce sera surtout l'occasion de réajuster les portefeuilles. Avec le confinement, les huis clos, les clubs ont perdu beaucoup d'argent et vont vouloir vendre certains joueurs qui risquent de partir à des prix dérisoires. Écoutez ce que redoute l'agent Christophe Hutto.
Aujourd'hui, vous êtes acheteur. Vous savez que vous avez en face de vous un vendeur qui a besoin d'argent. Qui plus est, rapidement, qu'allez-vous faire ? Vous allez gagner du temps pour payer le produit que vous allez acheter le moins cher possible. C'est la base de l'économie. Donc, les clubs anglais, notamment, voire allemands, ou quelques pays exotiques où il y a des forts moyens, comme en Russie, comme encore en Chine, ou dans les pays du Golfe, ben, ils vont attendre tranquillement la fin de la fenêtre du mercato pour pouvoir faire des offres à la baisse. J'irais même jusqu'à dire, dans certains cas, à la casse. Et ils savent pertinemment que les clubs vendeurs n'auront d'autre solution que de vendre. Pour limiter les dégâts, voire de continuer à exister.
Christophe Hutto, l'agent de joueur avec Julien Froment. Et puis on attend toujours du nouveau au PSG. Ben oui. L'Argentin Mauricio Pochettino est pressenti pour remplacer Thomas Tuchel à la tête du club. L'officialisation pourrait intervenir dans les tout prochains jours. Enfin, un mot du Vendée Globe. Yannick Bestaven creuse encore un peu plus l'écart sur son dauphin Charlie Dalin, alors que les skippers se rapprochent du Cap Horn.
Merci Marguerite Lefebvre, ça veut dire qu'on n'entendra plus Thomas Tuchel.
Ah bah ça y est, c'est fini, c'est terminé pour lui.
Bon, on se retrouve dans le journal de 8h.
Peut-être.
Oui. Et on sera effectivement à 8h avec vous Marguerite, dans le journal, en direct avec la préfète du Grand Est région, où le couvre-feu est désormais à 18h.